I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois. Moi c'est Thibaut et ici le principe est simple, à chaque épisode, une année de ciné prise au hasard, de 1895, création du cinéma donc, à 2018, et un invité pour en discuter. L'invité du jour est rédacteur en chef du trimestriel Revue et Corrigée, et comme il le dit lui-même, spécialiste du cinéma du XXe siècle, salut Marc Moquin.
Bonjour à tous.
Ça va ?
Ça va très bien, et toi ?
Eh bien, ça va très bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors bien sûr, je rappelle, hein, l'objectif n'est pas tant de parler ici de tous les films de l'année en particulier, mais on va essayer de mettre une teinte, une tonalité sur l'année en question, et d'évoquer le plus de films différents possible, bien sûr. L'année qui nous intéresse aujourd'hui fut tirée au hasard par l'invité de l'épisode précédent, Théo Ribeton, que l'on salue. Bref, il est temps qu'on parle de 1939. On écoutait ça en 1939, Moonlight Serenade de Glenn Miller, mais on faisait pas que ça en 1939, puisque 1939, avant d'être du cinéma, c'est plein de choses très compliquées et très diverses, notamment le début de la Seconde Guerre mondiale, le 1er septembre, par l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie. C'est aussi l'année de la publication des Raisins de la colère de John Steinbeck, la première apparition d'un super-héros bien connu, l'homme-chauve-souris Batman, et aussi l'année du premier festival de Cannes avorté, parce qu'effectivement c'est un peu particulier. Peut-être que Marc, tu peux nous en parler brièvement. Il y a eu un festival de Cannes en 1939.
Oui, il faut avoir à l'esprit que le festival de Cannes a quand même été lancé dans une optique de réponse au festival de Venise, en fait, parce qu'à l'époque il y avait le festival de Venise qui était porte-étendard du cinéma fasciste, avec comme récompense suprême la coupe Mussolini. Donc le festival de Cannes, forcément, Deuxième Guerre mondiale oblige, est reporté. Il n'aura lieu pour la première année qu'en 1946, je crois.
Il me semble, effectivement. Donc une année 1939, effectivement, ben, plutôt chargé en plein de choses, politiques, économiques, mais bien sûr en cinéma. Il est temps de lancer notre premier thème de l'émission. Écoutez, je vais même pas dire encore une fois le nom d'un des films dont on va parler, je vais juste vous lancer un petit sonore, très simplement.
Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore.
Et non, nous ne sommes plus au Kansas, Dorothy, nous ne sommes plus au Kansas. Vous aurez reconnu Le Magicien d'Oz, film très célèbre de l'année 1939. Pourquoi on en parle ? Parce que en 1939, vous avez Le Magicien d'Oz qui va sortir, mais également la même année, Autant en emporte le vent, qui est un autre immense film, notamment parce que c'est le film qui a, au box-office, rapporté le plus d'argent, avec notamment 3,3 milliards de dollars cumulés. Et ces deux films, pourquoi on les a réunis, c'est qu'ils partagent énormément de choses, notamment des réalisateurs en commun. Pour vous donner une idée, Le Magicien d'Oz est un film qui va avoir 5 réalisateurs, Victor Fleming, George Cukor, Melvin Leroy, Norman Taurog et King Vidor. Autant en emporte le vent est un film qui aura lui 3 réalisateurs, Sam Wood, Victor Fleming et George Cukor. Donc ils partagent ces deux films, ils ont 3 réalisateurs en commun. Ils viennent tous les deux du même studio. En plus d'être extrêmement connus, ils partagent la même technologie puisqu'ils sont tous et deux été tournés en Technicolor, qui va être le sujet de notre premier thème, Marc, qui est une technologie qui a connu des débuts difficiles.
Voilà, alors.
Qu'est-ce que c'est le Technicolor, Marc, et pourquoi c'est important en 1939 avec ces deux films notamment?
Pourquoi? Parce que donc le Technicolor, il est lancé en 1916, il a des débuts extrêmement difficiles, il y a plein de choses qui ne marchent pas, et ensuite dans les années qui suivent, il y a un Technicolor bichrome qui est lancé, par exemple. C'est un, oui, Technicolor qui n'a pas toutes les gammes de couleurs, qui n'a pas de bleu, par exemple, il n'a que deux couleurs, d'où le bichrome. Et ensuite, le Technicolor trichrome qui permet à peu près de restituer les couleurs réelles. Mais le problème, c'est que c'est une technologie très chère, qui au début ne marche pas du tout. Il y a plein de films tests qui sont faits, dont un qui est peut-être trouvable sur Internet, qui s'appelle La Cucaracha. Je vous invite à le regarder, c'est assez amusant. Et c'est un film, c'est une technologie qui ne trouve pas preneur, principalement parce que les gens estiment, au milieu des années 30, que la couleur ne fait pas réel. Autrement dit, que c'est le noir et blanc qui fait réel. Ce qui aujourd'hui prête à sourire, mais en même temps est assez intéressant parce que c'est des débats qu'on a eu il y a pas longtemps à propos de la 3D, comme quoi la 3D ça faisait pas réel, etc. Donc c'est quand même amusant de voir ce parallèle. Donc voilà, un des premiers jalons, ça sera Blanche-Neige, qui va justement être fait en Technicolor. Il va être le premier long métrage d'animation du studio Disney.
37,
voilà. Ouais. Et va permettre à Technicolor de se remettre sur des bons rails et enfin pouvoir vendre sa technologie à des studios, dont un des premiers qui va être l'acquéreur, c'est la MGM. Par contre, le problème, c'est que ça reste une technologie extrêmement difficile à prendre en main. Pourquoi ? Donc, en fait, tout à l'heure, je parlais de Technicolor Trichrome. En fait, si vous voulez, c'est qu'à l'intérieur de la caméra, il y a trois bobines. Une bobine rouge, une bobine verte, une bobine bleue. La caméra elle-même est énorme. Elle pèse à peu près plus de 100 kilos. Ah donc, ouais. Ça demande non seulement énormément de temps, mais aussi de moyens pour la mettre en œuvre. Il y a sachant que la marque Technicolor appartient à Technicolor. Technicolor ne fait que louer son matériel au studio. Donc, avec la location, entre guillemets, du matériel, il loue également des Technicolor Advisors, donc des conseillers Technicolor qu'il y aura un peu plus tard
qui suivent le film véritablement, voilà, qui vont suivre tous les tournages en Technicolor,
qui vont suivre le film et qui vont même prendre le pas sur les directeurs de la photographie qui évidemment du jour au lendemain doivent tourner avec de la couleur, ce qui n'était pas forcément évident pour tous. Je fais une petite parenthèse, parmi ces Technicolor Advisors, il y a quelqu'un sur lequel j'aime bien revenir assez souvent, c'est Nathalie Kalmus. Nathalie Kalmus, c'est l'ex-femme du docteur Herbert Kalmus, qui est lui-même l'inventeur du Technicolor, et elle, c'était la chef des superviseurs des Technicolor Advisors. Ouais. Et elle va dicter une esthétique de la couleur, alors elle travaille pas sur ces films-là, mais son nom est important quand même, elle va dicter une esthétique de la couleur qui va complètement créer ce que le cinéma américain va faire dans la décennie qui suit, parfois aux grandes dames des producteurs ou des directeurs de la photo avec lesquels elle va parfois sévèrement se friter, dont par exemple sur Duel au soleil, et elle a une conception de la couleur extrêmement moderne, extrêmement avant-gardiste, parce qu'à l'époque, et ces deux films-là le prouvent très bien,
donc retour, Autant n'importe le vent,
voilà, et le magicien d'Oz le prouvent très bien, quand le Technicolor arrive, forcément on n'a qu'une envie, c'est de tartiner l'écran de couleur.
Bien sûr.
Et Nathalie Kalmus, elle est dans une logique beaucoup plus réaliste de la couleur, c'est-à-dire qu'on va avoir des images beaucoup plus ocre, beaucoup plus beige, marronasse, etc., avec une touche de rouge, une touche de violet, etc. Elle va faire un discours qui viendra en essai plus tard, qui s'appelle La conscience de la couleur, où elle parle de l'émotion de la couleur et l'utilisation de la couleur dans le cadre des tonalités du cinéma. Donc voilà, je vous invite à consulter tout ça.
T'es en train de dire que, un peu comme on peut avoir maintenant des IMAX Advisors,
exactement,
des gens qui suivent les tournages en IMAX pour vérifier que leur technologie est bien utilisée, Nathalie Kalmus, c'est ça,
voilà,
a été là effectivement derrière les films, à tenir un rôle quasiment de production designer d'une certaine manière, en tout cas technique, en tout cas à s'assurer de la teinte du style d'un,
voilà,
film en termes de
ça allait, et c'était pas que la photo, parce que ça allait jusqu'au costume, jusqu'au décor,
bien sûr.
Sur Duel au soleil, qui est produit par Selznick, qui est le même producteur que justement Autant n'emporte le vent, sur Duel au soleil vous avez des essais par exemple du film tourné dans des décors différents, où Jennifer Jones, qui d'ailleurs était la femme de Selznick, n'a pas le même costume en fonction de la version Selznick, qui lui voulait plutôt des couleurs, et la version Kalmus, qui elle voulait plutôt une robe marronasse avec un haut bleu foncé, et peut-être juste une ceinture rouge,
bien sûr,
rouge pétant. Donc voilà, donc il y a vraiment tout ce bouillonnement de réflexion sur la couleur qui se met en place à partir de la fin des années 30, ce qui est extrêmement intéressant, parce que derrière ça va conditionner 70 ans d'histoire de la couleur dans le cinéma américain,
ouais,
qui vraiment sont en train de trouver leur matrice ici.
Bien sûr. Donc en fait, pour redonner une chronologie précise, effectivement le Technicolor, en tout cas l'invention du Technicolor en tant que tel, c'est 1916, mais il mettra plusieurs décennies pour arriver à cette technologie qu'on appelle trichrome, qui va être celle qui va faire connaître effectivement le Technicolor, et qui en 1939, après des années, on va dire, de tentatives, de films qui marchent plus ou moins bien, Blanche-Neige qui le met devant de la scène, il va y arriver, Magicien d'Oz et Autant n'importe le vent, deux gros films qui vont marquer cette année 1939 et qui vont utiliser le Technicolor. Dans Magicien d'Oz, c'est intéressant parce que le film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, hein, donc raconte l'histoire de Dorothée qui est emportée dans sa maison par une tornade pour atterrir dans le monde merveilleux de Oz. Et le début du film se passe donc au Kansas, qui est en sépia, il me semble, et quand elle arrive dans le monde merveilleux de Oz, celui-ci est en couleur, en technicolor, voilà. Donc ça fait vraiment une scission, les deux mondes bien différents, le couleur joue vraiment un rôle narratif à ce niveau-là.
C'est un exemple de mise en scène, c'est une idée de mise en scène qui avait été carrément reprise, ouais. En fait, dans une autre genre d'évolution technologique, par le chanteur de jazz qui s'est sorti une douzaine d'années plus tôt, parce que le chanteur de jazz, c'est pas le premier film parlant, mais c'est le premier grand succès du cinéma parlant, et le chanteur de jazz commence en noir et blanc, et au un moment précis du film, hop, ça passe en sonore, il y a un dialogue avec une réplique assez connue, vous n'avez jamais rien entendu de tel. Et il y a exactement la même sensation dans Le Magicien d'Oz, avec un plan, même si vous n'avez pas vu le film, vous l'avez certainement déjà vu, de Dorothy qui pénètre dans le monde merveilleux, où bah, le plan commence en noir et blanc, c'est un travelling, une porte qui s'ouvre, ouais. Un travelling avant, du noir et blanc vers la couleur, qui a été fait en une prise, avec un trucage que tout le monde connaît, mais ça vaut le coup peut-être de le rappeler. La partie en intérieur était faite dans un décor peint en sépia, avec une actrice, une doublure peinte en sépia, donc la porte s'ouvre, enfin la doublure ouvre la porte, la caméra s'y engouffre, derrière c'est la couleur, et à ce moment-là justement il y a Judy Garland qui revient elle en couleur.
Bien sûr, donc on vous invite effectivement à regarder cette scène qui est disponible sur YouTube assez facilement sur internet, voilà. Un autre petit sonore pour ponctuer notre discussion sur le Technicolor et ces deux films du Magicien d'Oz et d'autant en emporte le vent, une réplique, on va dire peut-être l'une des plus célèbres du cinéma.
Frankly, my dear, I don't give a damn.
Red Butler, un gentleman parmi tant d'autres. Donc c'était bien sûr autant on emporte le vent et cette réplique Frankly, my dear, I don't give a damn. Très connue, donc qui utilise aussi le Technicolor. Alors, moi je t'avoue que j'ai découvert autant on emporte le vent pour préparer cette émission-là. Donc,
et alors?
Alors, je mettrai un petit contexte pour ceux qui nous écoutent. Autant n'importe le vent, ça va être un film de 3h58 qui raconte l'histoire d'amour compliquée entre Scarlett O'Hara, une jeune bourgeoise sudiste, dans sa grande maison, avec Red Butler, qui est un gentleman de la haute... pareil, de la bourgeoisie du Sud, dans le contexte de cette guerre de sécession, donc 1861-1865, donc qui va être tout en fond de cet amour impossible, tumultueux, etc., etc. Donc c'est une grande fresque. Moi, j'ai découvert le film qui est cité dans toutes les annales du cinéma. Et 3h58, en fait, ça passe vite. Alors, honnêtement, je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus compliqué que ça, mais en fait, c'est assez prenant. Il faut quand même avouer que le film est un peu daté dans le fait que ce soit un film quand même relativement sudiste. C'est un film de confédéré, comme on pourrait le dire. C'est-à-dire que c'est un film qui rappelle quand même que le temps de l'esclavage était quand même pas si mal. Et donc les personnages noirs dans le film, eh ben ils sont quand même pas si malheureux d'être. Ils sont pas esclaves, ils sont employés de cette grande famille bourgeoise de Scarlett des O'Hara. Donc c'est un film qui peut être un peu compliqué à voir dans le contexte actuel, effectivement. En 1939, ça choquait, sachez que ça choquait également les gens. Il a quand même été taxé de racisme à l'époque, en 1939, donc l'histoire n'est pas totalement une excuse. Mais je le conseillais quand même malgré tout à tout le monde parce que l'utilisation de la couleur est à tout point de vue assez phénoménale, notamment dans les décors, dans les costumes et dans certains plans qui, pour 1939, moi, m'ont fait exploser la rétine. Littéralement, on va voir régulièrement un plan des personnages face à leur grosse propriété de O'Hara, une espèce de mouvement de grue, de retour en arrière. Ce plan-là va revenir régulièrement dans le film, et à chaque fois, il est stomaque. Donc, je vous le conseille véritablement, et ça a été une belle découverte pour moi, même si c'est effectivement 3h58.
Mais c'est intéressant que t'en parles parce que c'est un film dont on a pas mal parlé récemment parce qu'il y avait eu pas mal de polémiques autour de Temps d'emporte le vent, notamment dans des diffusions. Il y a un cinéma par exemple dans le sud américain qui le diffusait tous les ans et qui il y a un ou deux ans, pour la première fois, a cessé de le diffuser suite à justement énormément d'actualités qu'il y a eu récemment autour de la question de la perception, de la vision du sud
Bien sûr.
Dans l'histoire américaine. Et c'est un film que moi je trouve assez extrêmement ambigu là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et à l'époque aussi, forcément, on a toujours cette tendance de faire entrer les films dans des cases racistes, pas racistes, progressistes, pas progressistes.
Bien sûr.
C'est un film, on va pas le faire passer pour un parangon de progressisme non plus, mais c'est un film extrêmement curieux, notamment, alors là on pousse un petit peu loin, mais notamment si vraiment on le met en diptyque avec Le Magicien d'Oz, mais pas du tout pour la question formelle, pas du tout pour la question technicolor. C'est-à-dire que dans les deux cas, on a un film qui parle d'une sorte de pays imaginaire. Parce que dans Le Magicien d'Oz, évidemment, il y a, le pays imaginaire qui est le pays imaginaire où Dorothy débarque dans sa tornade,
pays etc.
Voilà, pays d'Oz. Et dans On emporte le vent, il y a ce pays imaginaire qui est posé dès le début. Imaginaire, oui et non, mais qui est posé dès le début du film avec ce fameux carton qui dit c'était le temps de la chevalerie, etc. Il y a tout un carton.
Le passé,
voilà, qui idéalise, etc. Un passé. Sauf que je trouve ça extrêmement ambigu dans Temps emporte le vent parce qu'en fait, il y a d'un côté une vision extrêmement idéalisée, extrêmement belle, tout est beau, les gens sont beaux, etc. Ouais. De ce sud noble, enfin, pas noble, mais bourgeois, aristocratique, quand même un petit peu américain.
Oui, c'est que des gens qui ont de la thune et qu'il n'y a pas de...
Voilà, et de l'autre côté, il n'y a que des personnages absolument détestables.
Bien sûr.
On a beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit dessus. Aujourd'hui, évidemment, il y a plein de gens qui râlent sur le fait de « mais les personnages sont insupportables ». Mais ils sont en effet insupportables, les personnages.
Scarlett O'Hara est insupportable.
parce qu'en effet, ils ont tous ces stéréotypes de la bourgeoisie qui les rendent insupportables. Et en même temps, qui rendent quand même leur destinée absolument fascinante parce que leur histoire d'amour, mes aventures amoureuses plutôt traversent l'histoire, etc. Et ces deux films, autant par exemple Le Magicien d'Oz, ça va être vraiment un film juste universellement merveilleux, assez unilatéral, même si évidemment le film a des sens psychologiques qui viennent du bouquin assez intéressant et que c'est, je pense, un des grands moments de la fable américaine. Autant On emporte le vent, c'est une esthétique beaucoup plus contrastée, même sans parler d'esthétique, c'est un ton beaucoup plus nuancé. Par exemple, sur la question des personnages, bon, je sais qu'évidemment, ça fait pas forcément office de caution parfaite, mais ça vaut le coup quand même de rappeler que Hattie McDaniels, qui fait justement le rôle de la servante, été oscarisée, avait été oscarisée à l'époque, bon, en même temps, tout en ayant l'impossibilité de se rendre à la première.
Ça a été la première, d'ailleurs, actrice afro-américaine à recevoir l'Oscar.
Donc voilà, le film a une série d'ambiguïtés comme ça. Il a ses personnages détestables, et en même temps, le film parle d'une époque, d'une page de l'Amérique qui se tourne.
Oui.
C'est ça qui rend aussi le film ambigu, c'est-à-dire qu'en plus le film sort en 39, etc. Il y a l'Amérique qui s'apprête à tourner une nouvelle page, parce qu'évidemment, si à cette époque-là, il est hors de question pour les Américains de rentrer en guerre, il y a quand même une conscience de ce qui se passe ailleurs dans le monde.
Dire restons chez nous. Quoi.
Voilà, et il y a quand même ce film qui se dit il y a une ère de l'Amérique qui est en train de se terminer. Et aussi, alors, je vais pas revenir sur la question de la production du film parce que ça a été production chaotique, machin. On a écrit beaucoup, beaucoup là-dessus.
Comme Le Magicien d'Oz d'ailleurs, voilà, c'est deux films avec la production chaotique, d'où le nombre de réalisateurs importants.
Voilà,
pour les deux
nombre de réalisateurs. Il y a 15 scénaristes différents qui ont travaillé sur Autant n'importe le vent. Il y en a plein. Dont, par exemple, il y a Scott Fitzgerald qui a travaillé dessus. Il y a rien qui a été gardé de son scénario. Donc il y a même des grands noms qui ont travaillé dessus. Le réalisateur d'Autant n'importe le vent, techniquement, c'est Victor Fleming. Le film avait été commencé par George Cukor, qui a été écarté après deux semaines de tournage, que selon Selznick, c'était très mou. Il a été remplacé par Victor Fleming, qui a été choisi par Clark Gable, et Victor Fleming va à son tour laisser sa place à Sam Wood pour terminer le film, parce qu'il était en nervous breakdown, le pauvre Victor Fleming, après avoir enchaîné Magicien d'Oz et Autant n'importe le vent, qui sont totalement hors normes, parce que souvent on a tendance à dire que Autant n'importe le vent représente Hollywood. C'est pas vrai, c'est pas possible. Autant n'importe le vent, c'est trop mal passé et trop hors normes.
Ça reste une exception, véritablement.
C'est une exception,
bien sûr.
Mais en même temps, c'est quand même témoin d'une époque où, pour faire des blockbusters entre guillemets ou des super productions, fallait expérimenter, fallait créer quelque chose. Et tout à l'heure, on écoutait une réplique amusante, assez connue du Magicien d'Oz, We are not in Kansas anymore, on n'est plus au Kansas. Bon, hasard ou non, non, c'est pas un hasard, mais c'est une réplique qui est dans Avatar, qui est lui-même sorti 70 ans plus tard, quasiment tout pile, et qui est lui-même dans une optique de, est-ce que c'est un remake du Magicien d'Oz, finalement? Donc, et dans une optique d'expérimentation, etc.
Ce pont est intéressant entre Avatar et le Magicien d'Oz, je l'enjambe avec plaisir. Pour résumer, effectivement, sur ces deux films, Le Magicien d'Oz et Autant n'importe l'avant, dont on a vu qu'ils avaient beaucoup de points en commun, et donc la technologie du Technicolor. Pour résumer sur le Technicolor, Technicolor, ça va être une technologie qui va être utilisée sur beaucoup plus de 500 films, entre 35 et en gros 55. Parmi les films qui utilisent le Technicolor, on peut citer Les Aventures de Robin des Bois, Ben-Hur, bien sûr, Une étoile est née, Star is Born, version 1937, Le Narcisse Noir, un film magnifique, Covadis, Chantons sous la pluie, un Américain à Paris. Et enfin, l'un des derniers films à étudier le Technicolor, Laurence d'Arabie. Excusez du peu, ça reste quand même une technologie qui était synonyme de grand spectacle, de débauche effectivement visuelle. Voilà qui conclut notre premier thème sur le Technicolor. Enchaînons.
Un assassin reste intéressant, un assassin. Je suis un assassin. Mais oui, je suis un assassin. Mais les assassins, ça court les rues. Il y en a partout. Partout, tout le monde tue. Tout le monde tue un petit peu seulement. On tue en douceur, alors ça se voit pas. C'est comme la sable, c'est en dedans. Là, en dedans.
La meilleure réplique du monde. Non, c'est effectivement la voix que vous avez entendue, c'est celle de donc de Jean Gabin dans Le jour se lève de Marcel Carné, film magnifique sorti donc également en 39, et l'un des films que l'on pourrait rentrer dans la catégorie du réalisme poétique. Alors Marc rigole un petit peu parce qu'effectivement on va le voir, le réalisme poétique est un genre qui prête à plein de nuances. Alors pour vous résumer, Le jour se lève, dans son appartement, François tire et tue Valentin, qui convoitait sa belle Clara. Son immeuble est alors encerclé par la police et barricadé, il se remémore ce qui l'a amené à ce drame-là. Donc Le jour se lève est un film de Marcel Carné, qui va du coup être dans ce genre dont on discutait, qui va être le réalisme poétique, qui est un genre qu'on pourrait situer donc dans les années 30 en France, qui commence aux alentours de 1932 avec le film Cœur de Lila d'Anatole Litvak, et qui va aller jusqu'à Le jour se lève en 39, même un peu après-guerre. Comment on pourrait peut-être le caractériser, ce genre, Marc, ce genre qui est le réalisme poétique, véritablement?
Alors, justement, après on va en parler, si on veut vraiment faire taper large, une des principales caractéristiques, je pense, du réalisme poétique, c'est vraiment la question, le lien social dans les films, dans les héros, etc. C'est-à-dire que, essentiellement, c'est souvent des histoires d'amour, mais qui vont avoir trait à une destinée ou à un contexte social plus fort, que ça soit la guerre, justement, avec la question du déserteur dans Le Quai des Brumes, ouais, que ce soit la question du front pop, des ouvriers, etc., tel que là, on va le voir après, en parlant justement du jour se lève, et qui sont tournés avec une esthétique extrêmement marquée, extrêmement travaillée, complètement tournée, ou essentiellement tournée en studio. Et moi, ce qui m'intrigue un petit peu dans ce courant-là, c'est un petit peu son côté fourre-tout. Mais ce qui est en même temps témoin de l'immense inventivité et l'immense souci de renouvellement qu'avait le cinéma français des années 30, parce que voilà, on a souvent mis dans ce courant-là, on a mis René Clair, on a mis justement Carné, on a mis parfois Renoir, parfois oui, parfois non. Et le problème, c'est qu'il y a quand même une forme de confusion. On a mis Julien Duvivier. Julien Duvivier, c'est un réalisateur qui a été notamment connu par un de ses grands films, il a fait pas mal de grands films, mais La Belle Équipe, par exemple, ouais, Gabin. Pardon. Alors, La Belle Équipe, si on voudrait, il y a certains éléments qui sont là, le côté un peu film du front pop, film de guinguette, film de pote, mais d'autre côté...
Ce n'est pas en studio,
c'est une esthétique... Enfin, c'est un film incroyablement beau esthétiquement, mais c'est presque plus réaliste en fait que l'essentiel des films du réalisme poétique. Et donc voilà, il y a cette forme d'ambiguïté. Et ailleurs, moi, il y a un des réalisateurs que j'adore, qui est Abel Gance, par exemple. Abel Gance, qui est surtout connu pour ses films muets, Napoléon, J'accuse, etc., mais qui a une période parlante assez intéressante et qui, pour moi, a réalisé au moins deux grands films parlants, qui est sa deuxième version de J'accuse et Paradis perdu. Paradis perdu, si on veut, c'est un film qui a tous les éléments du réalisme poétique, c'est-à-dire que le ton, l'approche politique ou sociale du truc, parce qu'évidemment, c'est un film qui parle d'amour impossible, alors qui, dans le film, se passe en amorce de la Première Guerre mondiale. Le film sort entre 39 et 40, donc bon, forcément, on voit à peu près le contexte politique du film, qui visuellement a aussi des éléments du réalisme poétique. Pourtant, jamais, rarement, du moins, j'attends peut-être les défenseurs d'Abel Gance me contredire, mais rarement, on va rattacher à Abel Gance au réalisme poétique. Donc il y a vraiment un petit peu cette ambiguïté autour de la notion de qu'est-ce que le réalisme poétique, dans lequel on a voulu regrouper, je pense, pas mal de films des années 30 qui avaient un moment des traits en commun, que ce soit par des dialogues, beaucoup, alors question du scénario et des dialogues, par exemple, à l'époque il y avait un grand dialoguiste qui s'appelait Charles Pack, qui était belge, qui a travaillé avec Duvivier, par exemple, donc lui est peut-être pour beaucoup dans la cohérence de ce genre-là, ou Jean Gabin, dont on a entendu la voix tout à l'heure, Gabin, c'est on dit réalisme poétique, on a forcément la tête de Gabin en tête, ou d'autres plans sur Arletty ou d'autres.
C'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement là tu cites des dialoguistes, tu vas citer des acteurs, tu cites des réalisateurs. Moi, en faisant mes recherches, effectivement, j'étais tombé sur une citation qui corrobore un peu ce que tu dis, qui disait que le réalisme poétique c'est l'étrange collage de deux concepts apparemment opposés qui vont être le prosaïsme du réalisme et le lyrisme poétique. Et pour rendre ça encore un peu plus clair, le réalisme poétique peut avoir un autre nom. Qu'on a pu lui donner dans le passé, on pourrait appeler ça le fantastique social. Donc effectivement, on va avoir ces films-là qui vont avoir cette, comme tu le disais très bien, cette connotation sociale très très marquée avec la montée du Front populaire, cette conscience sociale, ces histoires de gens modestes, des ouvriers en général, des gens un peu qui sont perdus dans leur vie. C'est des films qui sont tournés dans les lieux populaires, les bars, les rues, les entrepôts, des choses comme ça. Et toujours avec cette effectivement teinte, ce filtre nimbé de brume, de sorte de lyrisme effectivement, de beauté qui entoure ces films-là et qui est très influencé par l'expressionnisme allemand des années 20 avec ce jeu de lumière, ce jeu de couleurs, enfin ce jeu de lumière, pas de couleurs évidemment, c'est en noir et blanc, mais ce jeu de lumière particulier.
Et bah oui, et d'autant plus qu'à l'époque on avait parlé de, c'est N.T. Bean, ceux qui connaissent pas N.T. Bean, c'est un collaborateur de Positif notamment, c'est N.T. Bean qui le rappelle dans le livret qui est dans le Blu-ray de la collection Canal où il y a le film en version restaurée, qu'à un moment on avait notamment parlé de films chuchotés pour qui suivaient justement d'abord le film muet, puis le film parlant, puis le film chuchoté, qui serait une nouvelle mode en fait, et qui évidemment, bon là il y a presque un côté contradictoire parce qu'on vient d'entendre Gabin qui hurle.
Mais dans le film, il chuchote beaucoup.
Mais dans le film, fameux, il chuchote
le
beaucoup.
Fameux, j'aime pas rester tout seul.
C'est vrai que Gabin navigue souvent entre les deux extrêmes, c'est-à-dire il parle très fort, si ce n'est il hurle, et à côté, il est capable de chuchoter. Donc en effet, il y a cette question-là. Et d'autant plus, alors tout à l'heure, tu disais justement fantastique social. Carné n'aimait pas trop apparemment le terme réalisme poétique. Lui-même préférait fantastique social. Et par exemple, un des grands collectionneurs slash amateurs de réalisme poétique en France, c'est Jean-Pierre Jeunet. Alors, ouais. Il y a une dimension assez logique, parce qu'évidemment, quand on voit, quand on se dit que le cinéaste d'Amélie Poulain et dans Un long dimanche de fiançailles est amateur de réalisme poétique, c'est pas vraiment étonnant. Mais lui, c'est quasiment maladif, mais dans un sens positif du terme, il collectionne. Évidemment, comme Jean-Pierre Jeunet est un grand amateur de bibelots, bah, dans son esprit de cinéphile, c'est aussi une cinéphilie de bibelots, donc il a collectionné tout ce qu'a trait à Carnet, Prévert, etc. Mais lui, par exemple, ne cautionne pas du tout le terme réaliste poétique. Pour lui, ça veut rien dire. C'est juste un truc d'intello, machin, qu'on théorisait du cinéma, etc. Mm-hmm. Ce qui fait sens aussi si on se met à sa place, parce que lui, il voit ça comme cinéaste, et pour lui, ça a aucun sens, quoi. Maintenant, pour revenir un petit peu au jour se lève, il y a quand même, bon, évidemment, quand il est question de, alors que ça soit réalisme poétique ou fantastique social, il y a une sorte d'évidence quand on voit le film, c'est-à-dire qu'en trois plans, on a quand même compris oui. À un moment qu'est-ce que le terme réalisme poétique veut vraiment dire ou qu'est-ce que le terme fantastique social veut vraiment dire dans ces rues reconstituées, notamment les scènes de nuit,
oui.
Beaucoup les scènes de nuit. Je pense que là, il faut rendre hommage à deux personnes hyper importantes dans la collaboration du film. Tu l'avais peut-être prévu.
Non, mais lui, très bien, tu vas le citer, c'est très bien.
C'est Alexandre Tronner.
Bien sûr, voilà. Chef décorateur.
Alexandre Tronner, qui est un immense chef décorateur. Un jour, il faudra faire, enfin, il doit y avoir des bouquins sur lui, peut-être, mais il faut en réécrire encore. Qui a traversé vraiment le cinéma des années 30, des années 60, et notamment, même dans le cinéma. En fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'Alexandre Tronner, même quand on voit les décors qu'il a fait pour les cinéastes américains type Billy Wilder, on se dit, ce sens du détail, il n'y a qu'Alexandre Tronner pour le faire, il n'y a qu'un chef décorateur à la française, même s'il n'est pas français, il n'y a qu'un chef décorateur à la française.
Il est hongrois, immigré hongrois.
Et pour avoir ce sens du détail. Et là, évidemment, bah, on a ce décor incroyable de parce que le film prend essentiellement place dans un seul et même lieu. Enfin, il y a
un immeuble sur une place un peu petite, mais
un immeuble tout seul d'ailleurs, tout seul, c'est un bout d'immeuble qui doit faire un immeuble pas très grand, qui fait 10 mètres sur 10 mètres,
voilà.
5-6 étages. Jean Gabin retranché au 5e ou 6e étage, en train de se faire tirer dessus par les policiers.
Barricadé, ouais.
Et donc il y a évidemment l'intérieur de l'immeuble, l'extérieur de l'immeuble, et énormément de jeux de caméra pour avoir une spatialisation de l'ensemble. complètement incroyable, de l'immeuble complètement incroyable, dans un film qui est somme toute assez court, qui prend pas de, il y a pas de morceaux de gras, etc. dans le film. Donc d'un côté, voilà, il y a Alexandre Trauner, et si vous voyez pas qui c'est, tapez, allez voir sur Wikipédia, vous allez voir, et vous pouvez vous regarder tous ses films. C'est comme, vous pouvez prendre sa carrière comme si c'était un réalisateur.
Ouais.
Alexandre Trauner, vous dire, c'est un type qui a une filmographie plus ou moins cohérente, avec plus ou moins des grands
films. Oui,
il
va faire une architecture, qui va être, comme on le disait, un peu fantasmée, un peu déformée, on va avoir des rues, sombres et brumeuses, mais en même temps des longues rues déformées, affolantes, aux perspectives un peu affolantes, donc ça peut être, voilà, c'est atypique, on va dire, véritablement.
On disait que c'était le magicien de la perspective, notamment. Voilà. Et un des autres, justement, sur lesquels je voulais revenir, c'était Kurt Courant, qui est le chef opérateur du film, qui est allemand, lui. Et bah tout à l'heure tu parlais d'influence d'expressionnisme allemand sur le film. Bon là on a carrément un Allemand qui fait la photographie et qui a une photographie assez typique en fait, notamment sur la question des éclairages, les gros plans sur les visages qui ont une zone de les gros plans sur les visages ont une zone de netteté extrêmement petite, ils sont presque flous en fait, c'est extrêmement beau. Les plans larges ont des sources lumineuses extrêmement très très sculptées en fait. Et il y a la question, voilà. Enfin, il y a la question de Gabin, parce qu'évidemment, le film c'est une ode à Gabin. Bon, il y a tout qui est là, hein, c'est-à-dire que même les personnages secondaires servent de miroir aux émotions de Gabin, parce que le film a été écrit par Jacques Viau, qui était le voisin de Carnet d'ailleurs. Et Jacques Viau lui avait notamment vendu le scénario à Carnet sur la question des flashbacks, parce que c'est un film qui est énormément construit en aller-retour.
Exactement, c'est un film qui est pour resituer, donc comme on l'a dit au début, c'est un film qui raconte quelqu'un qui va se remémorer les événements qui l'ont amené à un drame. Et donc c'est un film qui est énormément construit par des flashbacks, comme le sera Citizen Kane 2 ans plus tard. Donc 2 ans avant Citizen Kane, un film qui est déjà construit sur des flashbacks, et les Français, Cocorico, j'ai envie de dire, voilà.
Voilà. Et donc tout ça pour en revenir à ce que je disais, voilà, sur Gabin et Gabin comme vraiment voilà figure de proue. Gabin, voilà, il irrigue tout ce cinéma-là. Tout à l'heure on parlait de La Belle Équipe. Là je fais petite interlude. Pépé Le Moko, il y a pas longtemps, on a redécouvert un Gabin totalement perdu, qui était La Belle Marinière, un Gabin qui a été perdu à la fin des années 30, qui vient d'être redécouvert un peu par miracle. Alors pareil, on se pose la question, est-ce qu'on voit le film, est-ce que c'est réalisme poétique, oui, non. Pour moi, c'est abstrait, moi, presque, il y a des experts parmi les auditeurs de réalisme poétique, n'hésitez pas à m'envoyer des messages d'insultes. Mais voilà, le film en lui-même ne répond pas forcément à la question du réalisme poétique, même si il apparaît lui-même à la fin, entre guillemets, de ce qu'on a tendance, on admet que le réalisme poétique s'achève avec la guerre ou il dépasse après, etc. Mm-hmm. Et c'est aussi intéressant de mettre le réalisme poétique en parallèle de ce qui est en train de se passer à ce moment-là en Europe.
Exactement.
Comme s'il y avait une sorte de cocon, en fait, de cocon poétique, d'interlude poétique qui est en train de se créer à ce moment-là dans le cinéma français, qui d'un côté n'empêche pas d'avoir des mots forts, on l'a entendu d'ailleurs dans les mots
bien
de
Gabin,
on est tous un peu des, on est tous un peu des assassins.
Il y a un réalisme qui est saillant, on va
voilà,
dire. Une réalité saillante.
Qui est très violent et qui sont des films sur des sujets difficiles. Par exemple, Quai des Brumes, ça avait été une question assez difficile. La question du déserteur, parce que le personnage de Gabin est un déserteur dans le film. Et donc c'est toute une époque où le réalisme poétique, aussi abstrait soit-il à mes yeux, pose à beau être
une réponse à ce qui se passe en Europe
et donc évidemment derrière ça va un petit peu disparaître, même si alors oui ou non on admet des films après, ça va un petit peu s'atténuer avec la Seconde Guerre mondiale, parce que sous la Seconde Guerre mondiale les films vont être supervisés en France par une compagnie franco-allemande qui s'appelait la Continentale, donc les films n'ont pas vraiment les mêmes questions esthétiques ou thématiques pendant la guerre.
Donc pour effectivement vous résumer, le réalisme poétique, ça va être des personnages, des démunis, des déclassés, des ouvriers issus en général du prolétariat, des lieux comme on l'a dit, des bars, des bistrots, des hôtels modestes, des choses comme ça, un univers comme tu l'as cité totalement fabriqué en studio par Alexandre Trauner notamment, et des gueules, celle de Jean Gabin, celle d'Arletty, celle de Michel Morgan, et des réalisateurs Julien Duvivier, Jacques Feder et Marcel Carnet. Le jour se lève est l'un des films personnellement l'un des films les plus beaux que j'ai pu voir. Je l'ai revu pour préparer cette émission, je l'avais déjà vu il y a fort longtemps, et en le redécouvrant c'est juste poignant, perçant. C'est un film issu donc d'un genre français. Il y en a pas beaucoup des genres cinématographiques français. Ce fantastique à la française nous aura livré pas mal de films inoubliables. Je vous conseille donc de vous jeter sur Le Jour se lève, mais sur aussi donc Pépé le Moko. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller, Marc ?
Il y a Hôtel du Nord, il y a Les Enfants du Paradis, il y a Hôtel du Nord.
Voilà.
Puis attends, c'est un fantastique sans fantastique.
Et nous, on va avancer vers le troisième thème de cette émission, avec la voix d'un réalisateur pas comme les autres.
Duke was an undergraduate at USC when I first saw him. He was young Duke then, now he's old Duke. He was our prop man, our third assistant prop man during his summer vacations. I asked him what he wanted to do, what he was studying for. Was he taking pre-med, pre-legal? And he said, no, he wanted to be a director. So eventually he drifted into small parts and into bigger ones. And when the story of Stagecoach came along, I said I'd like to have Duke for it. And we got him in.
Voilà, c'était donc John Ford qui nous racontait sa rencontre avec John Wayne et les débuts modestes de l'acteur qui plus tard incarnera quasiment un genre à lui tout seul. Pourquoi on parle de John Ford ? Parce qu'en 1939, John Ford, ses trois films, La Chevauchée Fantastique, donc mine de rien un film qui va révolutionner son genre et on va dire le lancer vers un nouvel âge, l'âge classique, Sur la piste des Mohawks et Vers sa destinée, qui sont trois films relativement différents en termes de sujet, parce qu'on va avoir un western pur et dur, Sur la piste des Mohawks qui va être un film qui se passe, on va dire, pendant la guerre civile américaine, avec des Indiens, des colons, des gens qui s'installent, et Vers sa destinée, qui est un biopic, en gros, des premières années d'Abraham Lincoln. John Ford, juste pour vous donner une idée, au-delà de cette année 39, c'est plus de 140 films et 4 Oscars du meilleur réalisateur, c'est encore le record absolu dans la catégorie. Pour un réalisateur, John Ford, qui est peut-être, je sais pas ce que t'en penses Marc, l'inventeur de l'Amérique. Est-ce que John Ford est l'inventeur de l'Amérique, Marc ?
Est-ce que John Ford est l'inventeur de l'Amérique ? Combien de livres s'appellent Est-ce que John Ford est
l'inventeur de l'Amérique ? Oui, on enfonce des portes ouvertes, Marc.
Mais en même temps, que d'avoir comme ça trois grandes œuvres fordiennes en un an, c'est évidemment sidérant. Faut quand même recontextualiser un petit peu. C'était en effet l'époque où les réalisateurs enchaînaient pas mal, que ce soit John Huston ou un peu plus tard, ou Ward Hawks ou d'autres, etc., ou Harold Walsh. Il était courant de sortir deux films, parfois trois, la même année. Mais lui, il sort trois films qui sont vraiment trois œuvres phares, trois piliers de la question fordienne, en fait, où il n'y a pas un film majeur, deux films mineurs, etc. Et qui, alors tout à l'heure, tu disais c'était des films différents, qui... Ça vaut le coup
Différent dans les histoires. On va voir que dans les thèmes.
Qui se suivent chronologiquement. C'est ça qui est intéressant, parce que sur la piste des Mohawks, ça parle des premiers temps de l'Amérique, etc. Vers sa destinée, bon voilà, c'est Lincoln, et La Chevauchée Fantastique, c'est Western. Mais donc on a quand même une chronologie d'histoire américaine sur à peu près 100 ans environ.
Non, ouais, c'est à peu près 100. Ouais, 100 ans, tu vois, Lincoln, c'est le début 1800.
Et qui marque également le passage de John Ford à la couleur. Parce que Vers sa destinée et La Chevauchée Fantastique sont deux films en noir et blanc. Sur la piste de Mohawk, c'est un film en couleur. Bah voilà, on est la même année justement que les Autant n'emporte le vent et Magicien d'Oz dont on a parlé. Et évidemment, le cinéma en couleur intéresse les producteurs de western. La Chevauchée Fantastique, c'est un film que justement Ford est un tout petit peu à part, parce que c'est un film que Ford fait pour United Artists, qui produit lui-même, etc., comme il avait fait d'autres films avant sur le même modèle. Et les films qui vont suivre, et notamment, alors j'en rajoute un quatrième film où je déborde sur l'année 40, c'est Les Raisins de la Colère.
Bien sûr.
Parce que tout à l'heure, t'as parlé justement de la publication du roman Les Raisins de la Colère, et donc en l'espace d'un an, parce que je crois, sauf erreur de ma part, que La Chevauchée Fantastique, ça sort en quelque chose comme février ou mars 39, et qu'il se passe à peu près un an entre La Chevauchée Fantastique et Les Raisins de la Colère, qui sort en 40. Et après La Chevauchée Fantastique, il va passer à la Fox, il va notamment faire produire ses films par Daryl Zanuck, qui, pour ceux qui connaissent pas, est un peu un grand archétype de producteur hollywoodien, ouais, patron de la Fox, etc. Et avec lequel il va jouir d'une
Et il rencontre Henri Fonda.
Et il rencontre Henri Fonda.
Et il va jouer trois films d'affilée.
Voilà, il va jouer d'une notoriété agréable entre guillemets, parce que John Ford a un avantage, c'est qu'il tourne vite et bien, il fait pas de dépassement de budget, tout le contraire de Autant n'emporte le vent. et donc voilà, donc il y a cette suite de films qui crée une histoire américaine à la fois sur le film d'époque et à la fois c'est des films qui font écho à énormément de problématiques politiques ou sociales qui font qui à ce moment-là en Amérique, bah notamment tout à l'heure on parlait de vers sa destinée de Lincoln, en fait ce qui est intéressant c'est que Lincoln est une sorte de prétexte. Ce qui l'intéresse par exemple sur dans vers sa destinée, c'est une petite histoire de la vie de Lincoln qui est évidemment matricielle dans la destinée.
Oui, parce que pour juste résumer l'histoire, hein, c'est l'histoire d'Abraham Lincoln qui est donc un jeune avocat dans une petite ville des États-Unis et qui va, c'est un film de tribunal véritablement, il va résoudre un cas où des gens sont accusés d'un meurtre et ils sont condamnés à être pendus et il va s'occuper d'eux, il va les défendre et en les défendant, il va en même temps parler de l'Amérique en entier.
Qui est un film qui raconte énormément de choses sur la perception de la justice américaine ou même de la justice tout court, de la fameuse thème qu'on retrouve souvent dans les films américains, lynch mob. Cette foule lyncheuse qu'on retrouve éventuellement dans plusieurs films américains.
La furie.
Et c'est le même scénariste d'ailleurs.
J'aime bien les foules lyncheuses.
Pareil avec La Chevauchée Fantastique, parce que par exemple La Chevauchée Fantastique, c'est l'histoire d'une diligence. En fait, on va faire très simple, c'est un trajet d'un point A à un point B d'une diligence en fait, avec à l'intérieur de cette diligence plein de personnages de milieux sociaux différents, du bon gars comme il faut, à la prostituée, à la dame de société, à John Wayne, cowboy qu'on prend en plein chemin. Petite parenthèse, dans ce plan, si vous êtes aspirant metteur en scène, comment introduire un héros en un plan? Vous avez la réponse dans Le Chevalier Fantastique. La première fois qu'on voit John Wayne dans le film, il y a une sorte de travelling magnifiant, etc. Il y a même pas besoin
avec le fusil.
Il fait un mouvement avec sa Winchester, un truc très typique de rechargement de John Wayne de sa Winchester. Voilà, en un plan, vous avez créé un héros iconique du cinéma américain. Ouais. Et voilà, donc en un plan, il y a toute une iconisation de c'est quoi un héros américain.
Sachant que pour remettre encore une fois du contexte, La Chevauchée Fantastique est donc un western qui aujourd'hui est culte, mais il arrive à un moment donné où le western est mine de rien à une époque où le western est un genre qui est un peu mal vu, c'est-à-dire que c'est un genre un peu vulgaire, tu peux me contredire Marc, mais c'est un genre qui va être un peu considéré comme un peu avec l'étiquette série B, même s'il y a des grands films qui, on va dire, l'ont réinstallé véritablement, mais La Chevauchée Fantastique va lui donner une ambition visuelle qu'il n'avait pas, et ça va installer Monument Valley notamment comme lieu emblématique du genre. Monument Valley, donc c'est ces grandes constructions de pierre dans le désert américain. Ça va lui donner installer des rôles archétypaux, avec notamment, du coup, on a parlé de John Wayne, la jeune femme innocente, le joueur de poker avide, des choses comme ça, l'homme de loi, des choses qu'on peut voir dans les Lucky Luke notamment. Et ça installe du coup un acteur emblématique du genre qui est John Wayne. Donc c'est un film avec lequel John Ford va réinstaller un genre et, comme je disais, après tu n'hésites pas à me le contredire si je me dis des bêtises, mais va le lancer dans un âge qui va durer plusieurs années, voire plusieurs décennies même, qui va lancer du coup ce qu'on appelle le western classique. Est-ce que je me trompe, Marc?
Non,
ah, très bien.
Pas complètement. C'est-à-dire qu'il y a quand même, il y a quand même pas mal de western notables dans les années 30, dont La Piste des Géants, dont j'ai parlé avec John Wayne, qui est un des premiers westerns faits en format large, en 70 mm, où ils avaient quand même pris le genre du western pour expérimenter de nouvelles techniques. Mais là, ça crée une nouvelle impulsion. John Ford avait évidemment lui-même réalisé pas mal de westerns du temps du muet, comme de toute façon, les Américains se sont rapidement, avec leur cinéma, approprié le western comme genre. Western qui est un genre créé presque de toutes pièces pour le cinéma, même s'il y a eu beaucoup de livres, de littérature du western. Le western est un des rares genres qui soit une création presque pure du cinéma, qui ne vienne pas d'ailleurs, contrairement au KPDP, contrairement au polar, etc., etc. On sent qu'il y a quand même une cape qui est franchie avec La Chevauchée Fantastique, aussi parce que cette même année, il y a quand même d'autres westerns qui arrivent la même année. Petite parenthèse, tout à l'heure, on parlait des westerns on parlait de Technicolor, et un des plus beaux films en Technicolor qui a été fait à cette époque-là, qui est Jesse James de Henry King. Henry King, c'est un grand réalisateur à réévaluer, malheureusement, on n'en parle pas beaucoup, parce que souvent, il passe un peu en dessous des écrans radars. Et donc voilà, donc il y a vraiment en effet ce tournant dans la question du western où en même temps le western véhicule une valeur sociale dans Les Passagers de la Diligence, là, la fameuse diligence où un peu toutes les classes sociales se confrontent. C'est absolument saisissant parce que par exemple il y a un personnage de prostituée qui est un des plus beaux personnages du cinéma américain des années 30. Tellement c'est incroyablement écrit, tellement sa manière de répondre aux préjugés des autres, sa manière d'être agressée, parce qu'évidemment elle est méprisée, agressée par les autres, elle va être entre guillemets protégée par John Wayne, mais en fait ça va plus loin que ça, c'est pas juste John Wayne et la damsel in distress, c'est une relation beaucoup plus profonde, parce que l'un comme l'autre sont des outcasts, c'est-à-dire que elle c'est une outcast de la société parce que c'est une prostituée, lui parce que c'est un cowboy, en fait c'est un type inapte à être en société, et ça d'ailleurs c'est le plus beau côté de la création du personnage de John Wayne chez John Ford, c'est que John Wayne a toujours été un héros pas à sa place ou rarement à sa place dans les films de John Ford.
Tu veux dire que ça va être des personnages déclassés, mine de rien, on n'est pas si loin du réalisme poétique et des personnages, on va dire, en marge de la société, qui n'arrivent pas à citer, on retrouve cette...
Ça se fait écho, et dans La Prisonnière du désert, qui est un film que John Ford a fait bien plus tard, on voit bien que John Wayne retrouve en fait ce personnage qui est complètement inapte à vivre la fin de l'Ouest, à vivre ses mutations, plus tard avec L'homme qui tue à Liberty Valance, c'est sorti en 62, là c'est encore pire, John Wayne c'est la fin, il meurt avec le western. Et petite parenthèse, là on parlait par exemple de Vers la destinée de John Ford, il y a une des plus belles scènes de déclaration d'amour du monde dans Vers la destinée, quand Mr. Lincoln, Henry Fonda, clame son amour, qui n'est même pas son amour, tellement c'est plus subtilement écrit que ça, à la jeune fille dont il est amoureux à ce moment-là, qui est rousse, etc. Et elle dit que les gens n'aiment pas beaucoup les rousses, etc. Et que lui, il n'a rien contre les... Enfin, c'est une des plus belles scènes du cinéma américain. Et il y a dans ce moment-là, il y a deux, trois autres reprises dans le film, un thème musical fordien qui s'appelle le Anne Rutledge Theme, qui est repris dans L'homme qui tue à Liberty Valance, et qui est un thème qui est inondé de mélancolie. Allez sur YouTube, tapez Anne Rutledge Theme, et vous allez voir, vous avez l'essence mélancolique du cinéma américain par définition. Et ça marche très bien dans ces films-là.
Effectivement, on va voir La Chevauchée Fantastique, Sur la piste des Mohawks, Vers sa destinée, qui vont être du coup trois films sur l'Amérique, mais via des petites histoires. C'est des films qui racontent la grande histoire via les petites histoires, et qui tracent déjà quelque chose qui va être du coup prédominant dans les futurs films de John Ford, qui va être que John Ford est un cinéaste du peuple. John Ford est un cinéaste qui va parler des gens, et ça on va le voir du coup l'année suivante avec Les Raisins de la Colère, c'est un cinéaste qui va donner la parole à ses déclassés, à la parole au peuple, et donc dans les années 30 et dans les années qui vont suivre, il est convaincu que l'Amérique est construite, c'est façonnée, c'est construite par les petites gens véritablement, et ces trois films peut-être véritablement on l'évoque, on parle de jolie manière.
Faut pas perdre de vue que de toute façon là les films dont on parle c'est du cinéma populaire.
Bien sûr.
Alors évidemment il y avait plus populaire encore, il y avait des films de moindre qualité qui étaient encore plus populaires, mais là que ce soit Carnet ou Autant d'emporte le vent ou John Ford, etc., on est dans un cinéma complètement populaire. Donc et le western, on est dans un genre populaire, on est dans un genre qu'il faut où les héros doivent parler aux gens, ils doivent être à une sorte de recherche du ton universel du film. Et dernier petit truc que j'aimerais bien rajouter sur la piste des Mohawks, c'est que pour moi, c'est vraiment, si on a ici qui aime bien Michael Mann, si on a ici qui aime bien Le Dernier des Mohicans, la matrice du Dernier des Mohicans, c'est sur la piste de Mohawk. C'est-à-dire, je vous demande juste de regarder la manière qu'a Henry Fonda de tenir sa carabine dans le film, de le mettre côte à côte avec Daniel Day-Lewis, comment il tient sa carabine dans Le Dernier des Mohicans. Voilà, tout est dit. Comme par hasard, Henry Fonda, c'est lui qui interprète Lincoln dans Vers la destinée. Comme par hasard, Daniel Day-Lewis, c'est lui qui interprète Lincoln dans le suite spirituel de Spielberg, qui est Lincoln. Voilà.
C'est beau. Merci Marc pour cette parallèle magnifique que je n'avais pas vu venir et qui est magnifique. Non, c'est formidable. Effectivement, donc trois films, on le rappelle. 1939, c'est donc une grosse année pour John Ford. La Chevauchée Fantastique, Sur la piste des Mohawks et Vers la destinée, trois films évidemment qu'on vous conseille. Et sur lesquels on termine le cœur de notre épisode, puisque maintenant on va aller doucement vers la conclusion et vers ce qu'on appelle le tour du monde pour traiter des films qu'on aurait peut-être oubliés. En 1939, bien sûr, il y avait énormément d'autres films qu'on n'a pas pu traiter. En vrac, on pourra citer La Règle du jeu, on pourra citer Ninotchka, qui est un film que j'aime beaucoup, Le Chien des Baskerville, L'Homme au Basque de Fer, La Bête Humaine, Un Petit Hitchcock, La Taverne de la Jamaïque,
Et donc pour préparer ce tour du monde, j'ai décidé donc d'aller voir du côté de l'Asie, notamment du Japon, pour aller découvrir un film que et un réalisateur que je connais très très peu, parce que j'ai dû voir un film de lui il y a fort longtemps, qui est Kenji Mizoguchi, et donc de son film qui sort en 1939, qui s'appelle Les Contes des Chrysanthèmes Tardifs. Alors, pour faire brièvement, Les Contes des Chrysanthèmes Tardifs, film japonais de 1939 qui dure 2h23, comme ça, brûle pour point, on n'est pas extrêmement enjaillé. Mais je vous assure que c'est plutôt pas mal. Alors, rapidement, je vous donne le synopsis. Les Contes des Chrysanthèmes Tardifs raconte l'histoire d'un acteur de théâtre japonais qui se trouve être le fils adoptif d'un énorme acteur, immense acteur reconnu au Japon, mais qui lui malheureusement, ce jeune acteur, joue très très mal. Mais comme il est le fils adoptif de l'immense acteur, tout le monde dit qu'il joue très très bien, etc. etc. Bah, tout le monde lui ment, tout le monde se moque de lui dans son dos. Jusqu'au jour où il s'en rend compte, et choqué, outré dans son ego, il va partir sur les routes avec la seule personne qui lui dit sa vérité, la femme qu'il aime. Et en fait, on va le suivre pendant 2h, effectivement, 20, où il va prendre son métier de comédien et va revenir finalement pour grandir de cette expérience. Bref, au-delà du synopsis du film, Kenji Mizoguchi, c'est quelqu'un qui va faire près de 100 films dans sa carrière. Et c'est quelqu'un qui a un style assez particulier. Pour vous donner une idée, Les Contes des Chrysanthèmes Tardifs, c'est un film qui dure 2h23, dans lequel il n'y a que 142 blancs. Mizoguchi va être ce genre de réalisateur qui va construire son cinéma autour de longs plans séquences et autour d'une construction d'un cadre et composition d'un cadre assez particulier. Parfois, dans certains cadres de ces films, vous allez avoir 10 personnages, 12 personnages agencés en profondeur, agencés dans différentes parties de l'écran et qui va créer cette sorte de fraise, cette composition assez aberrante avec autant de personnages, et ça nous redonne peut-être ce sens d'un cadre bien fait. Le cinéma de Mizoguchi que j'ai découvert moi avec ce film là, je peux vous dire que sa vision a été pas forcément facile, mais au final j'en sors assez content parce que c'est une expérience assez atypique. C'est des plans séquences avec 1000 détails, 1000 histoires où il se passe des choses derrière, sur les côtés, et non pas seulement au premier plan, avec plein d'acteurs dans plein de sens, et une histoire qui est profondément humaine et extrêmement poétique.
Ouais, juste un truc rapide, à propos de ça. Découvrir Mizoguchi, en fait, même moi je connais pas franchement Mizoguchi, par contre j'en profite juste pour vous signaler que le 31 juillet, il va y avoir 8 films de Mizoguchi qui ressortent au cinéma, dont Les Contes de la Lune Vague après la pluie, qui je pense est son film le plus connu. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Mizoguchi, moi compris, ça va être la bonne occasion de découvrir ce grand cinéaste japonais.
Bah écoute, c'est une expérience que je souhaite à tout le monde, ne serait-ce que par curiosité. Effectivement, c'est un cinéaste que voilà, je connaissais pas du tout et que moi j'ai découvert, et je regrette pas du tout de l'avoir découvert, même si effectivement ses films sont de prime abord pas forcément attrayants comme ça, mais on peut avoir des belles surprises, et c'en est une. Dans ce tour du monde, tu voulais partager peut-être un film en particulier qui...
Oui, il y a tout à l'heure on parlait de cinéma français, il y a un film un petit peu à part qui est sorti en 39 qui s'appelle Le Déserteur, ou plutôt Je t'attendrai, plutôt Je t'attendrai d'ailleurs, parce que Le Déserteur c'était son titre original, et ça a été plus ou moins coupé par la censure, qui est un film de Léonide Monguy, qui n'est pas forcément un réalisateur extrêmement connu, mais un film extrêmement beau, qui se passe en fait... au moment de la guerre, où un soldat français, alors que son train est en panne, etc., profite de la panne du train pour aller, entre guillemets, déserter quelques heures pour aller voir sa famille et son amoureuse qui est dans le village juste à côté où son train s'est arrivé et s'est arrêté. Et évidemment, forcément, il y a tout ce truc où il a pas forcément envie de rejoindre le rang, et il se pose plein de questions, et il y a la police militaire qui rôde, sachant qu'à l'époque, la désertion, c'est soit la prison, soit la peine de mort.
Ouais.
Et donc voilà, c'est un très beau, très joli mélo qui se passe pendant la Première Guerre mondiale. J'ai pas précisé, c'est Première Guerre mondiale. C'est très joli mélo pendant la Première Guerre mondiale, où il y a une histoire d'amour, où pendant 1h30 de film, il y a non-stop les bruits d'artillerie. C'est un truc qui m'a marqué pendant le visionnage du film. Il y a les bruits d'artillerie au fond dans le fond sonore.
Ah, c'est
pendant
1h30,
quasiment non-stop. Sauf peut-être parfois quand il y a des scènes d'intérieur, etc. Mais même quand ça a aucun impact sur le récit, quand même, au fond, on entend...
Ah, c'est phénoménal.
Donc voilà, donc super joli film. Sorti en 39, donc voilà, Je t'attendrai, il a été restauré, il existe en Blu-ray chez Gaumont, etc.
Super.
Donc voilà, ma
merci beaucoup pour cette suggestion, cette recommandation. Et pour moi, pour terminer ce tour du monde, je rajouterai juste rapidement un autre film que assez connu des années de 1939, qui est Mr. Smith, Monsieur Smith au Sénat,
qui est le deuxième des troisièmes films du duo James Stewart-Frank Capra, qui a fait avant Vous ne l'emporterez pas avec vous, et qui fera l'immensément connu quelques années plus tard La vie est belle, bien sûr, et que j'ai envie de citer juste comme ça parce qu'il fait, c'est un écho un peu amusant à Vers sa destinée, parce que c'est également un film qui réhabilite, on va dire, une sorte d'idée de fondement de la démocratie américaine, et c'est un film qui du coup fait écho à ces années 30 où, après la Grande Dépression, on avait toute cette idée de devoir reconstruire une Amérique sur des bases solides, etc., etc. Et donc Mr. Smith au Sénat, ça va être un idéaliste qui va arriver à Washington et qui va découvrir que la politique américaine n'est pas forcément aussi belle qu'il ne le pensait. Et notamment qui va partir dans un plaidoyer extrêmement long qui va lui permettre effectivement de défendre sa cause. Et c'est un très très beau film à la Capra, comme on dit. Et si vous l'avez pas vu, bah, vous pourrez passer une excellente soirée à le regarder, parce que James Stewart, c'est toujours sympa. Et avec Frank Capra, c'est toujours mieux. Voici notre année 1939 traversée. On a cité quand même énormément de choses. Pour rappel, on a parlé du Technicolor, et donc du Magicien d'Oz et d'Autant n'importe le vent. On a parlé du réalisme poétique avec Le jour se lève de Marcel Carné. Et on a parlé de John Ford et de trois films assez imposants, assez importants, sur La piste des Mohawks, Vers sa destinée et La chevauchée fantastique. Et on a conclu effectivement sur ce petit tour du monde. Donc une année 1939 relativement vaste et intéressante qui, j'espère, vous aura donné envie de vous replonger dans cette année qui effectivement est assez passionnante à découvrir. Marc, merci d'avoir accepté mon invitation. Avant de se quitter, où est-ce que on peut te retrouver, Marc? Tu es effectivement rédacteur en chef du trimestriel Revue et Corrigée. Qu'est-ce que Revue et Corrigée?
Alors, c'est quoi Revue et Corrigée? C'est un trimestriel papier, une revue, quoi, consacrée à l'actualité du cinéma de patrimoine. C'est quoi le cinéma de patrimoine? C'est les films qui ont plus de 10 ans et qui, éventuellement, sont restaurés, ressortent en version restaurée. Donc, voilà, c'est les classiques, si on veut. Et donc, c'est une revue qui traite de l'actualité de ces classiques. Donc, c'est trimestriel. Là, on vient de sortir un numéro 3, il n'y a pas longtemps, sur la question du cinéma européen, parce qu'en ce moment, on parle pas mal d'Europe. Donc, on parle de cinéma européen. Et on est en train de préparer un numéro 4 qui parle, je crois que c'est la première fois que je le dis d'ailleurs, qui parle de l'année 69.
Hey, c'est une exclu, tu veux dire, c'est une exclu.
C'est, je crois que, à part, voilà, c'est la première fois que je le révèle, donc ça va faire un petit point sur l'année 69, qui est quand même assez richissime. Peut-être t'en parleras un jour, parce que l'année 69, c'est l'Ordre Sauvage, l'Armée des Ombres, Z, Hideo Gosha, Easy Rider, Woodstock.
Si on tombe sur 69, je t'inviterai effectivement à en parler.
Donc, il y a énormément de choses, donc voilà, et ça se trouve en librairie, sur Amazon, sur notre site, etc., donc voilà.
Très bien, donc Revue et Corrigée, effectivement, excellente publication, je vous conseille de vous jeter dessus. On parle pas assez de cinéma de patrimoine et c'est tout le temps effectivement intéressant et passionnant. Donc Revue et Corrigée, et avant de se quitter véritablement, Marc, comme c'est la tradition, tu vas tirer au sort l'année dont on parlera dans l'épisode suivant d'Année Lumière. Je mets devant toi un petit Google Generator, donc un générateur de nombres aléatoires devant lui, et Marc n'aura juste à appuyer dessus. Alors, petite règle simplement, comme on a parlé de 1975 pour le premier épisode et de 1939 pour cet épisode-ci, si on tombe sur, on va dire, une année qui tombe dans les années 30 ou les années 70, on va essayer de se l'éviter, histoire d'avoir un peu de diversité dans ce début d'aventure qui est Année Lumière. Marc, de quelle année allons-nous parler dans le prochain épisode d'Année Lumière? Je te laisse appuyer.
1961.
Bah écoute, merci beaucoup d'avoir tiré cette année, parce que comme ça, qu'est-ce qu'il y a 1961 comme ça de tête? Oh là là.
Bah, il n'y a pas Spartacus parce que c'est 60.
Pareil, Psycho, c'est 60. J'ai que 60 qui pop, 61, je voudrais pas te dire. Bon, bref, j'imagine que ça promet encore un épisode et une année assez folle en découverte. Marc est interloqué, il a pas de film d'année 61 qui arrive. Bon, on va regarder ça tranquillement. Bref, ça nous promet un prochain épisode d'Année Lumière passionnant. Merci de nous avoir écoutés. Merci à toi, Marc, encore d'avoir accepté mon invitation. Je vous donne rendez-vous au mois prochain pour un prochain épisode, du coup, d'Année Lumière. Merci beaucoup.
Merci à tous.
Salut.